Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En publiant, à partir de juin 1964, les tomes successifs du grand dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Jean Métron révolutionne la façon dont la mémoire des milliers d'anonymes des mouvements sociaux est connue, reconnue et transmise. Selon l'expression de l'historienne Michèle Perrault, l'une des intervenantes de l'émission que vous allez entendre dans un instant, le Métron constitue dès ses origines un lieu de mémoire ouvrière et populaire. Mais paradoxalement, pendant de nombreuses années, la vie de Jean Métron est peu connue du public. Et c'est sans doute pour mieux faire connaître cette existence tout entière consacrée au mouvement ouvrier, aussi bien que pour rendre hommage à son œuvre et à son travail, qu'Alain Astaud réalise ce numéro de Profil perdu en 1990. La formation intellectuelle de Jean Métron, sa carrière d'instituteur, son engagement socialiste nous sont comptés dans cette émission par plusieurs historiens des luttes sociales, Michel Perrault, Claude Pentier, Colette Chambellan. Voici donc Profil perdu, Jean Métron, premier temps d'une série de deux. Première diffusion de cette émission sur France Culture le 20 septembre 1990.
Le dictionnaire, c'est un acte de foi. C'est l'œuvre des militants. S'il n'y avait pas eu ces braves qui ont, contre vents et marées, au cours des décennies, au cours des siècles, travaillant comme on travaillait autrefois dans le cadre syndical ou politique de la Révolution française jusqu'à nos jours, alors qu'on ne disposait d'aucune garantie et que très souvent il y avait l'échec, la misère, la mort. Je pourrais citer bien des exemples.
Profil perdu, Jean Métron par Alain Astaud.
Et voyez-vous, il m'arrive le soir, et c'est ce que je voudrais dire aux militants ouvriers qui me demandent parfois, mais le dictionnaire, comment peut-on l'utiliser ? Il y a mille manières. Il m'arrive le soir de prendre le dictionnaire et de l'ouvrir à n'importe quelle page. Je dis bien n'importe quelle page. Et alors on trouve de ces biographies, de ces oubliés de l'histoire, en trois lignes, qui me laissent rêveur quand même, parce que derrière ces trois lignes, il y a l'inaccessible de l'individu. Mais cet individu a vécu, a existé, a combattu, et est mort parfois désespéré. Eh bien aujourd'hui, il n'est pas mort pour rien, voyez-vous, parce que son exemple existe et se maintient et vivra par le dictionnaire. Puis à côté, il y a d'amples biographies. Oh, je sais mieux que quiconque, et on me l'a fait remarquer, de très chers amis, voire des parents, m'ont dit, mais ce sont des squelettes, et je sais bien que ce sont des squelettes, qui peut aller au fond de l'être. Au fond, notamment du militant, cet iceberg dont une partie est immergée, mais qui existe aussi dans les profondeurs. Et qu'a-t-il pensé? Comment a-t-il vécu? Comment a-t-il survécu au cours des crises et au cours des combats auxquels il a été affronté? Et c'est pourquoi j'ai toujours considéré pour ma part, et c'est ce qui m'a soutenu dans mon, j'oserais appeler un combat, c'est que le dictionnaire est une eau de jouvence pour le militant, que j'y ai passé 30 ou 40 ans de ma vie et que je suis resté jeune et heureux.
C'est souvent dans la tête des pionniers solitaires que naissent les plus ambitieuses réalisations humaines. Jean Métron, dont la devise était « doute et agis », a été un pionnier de l'histoire du mouvement social français. Pionnier, il a d'abord été lorsqu'il a entrepris ses recherches universitaires sur le mouvement anarchiste français, à une époque, la fin des années 40, où l'université négligeait, par mépris voire par crainte, l'histoire ouvrière. L'institution saura d'ailleurs tenir à l'écart un historien qui sentait un peu trop le soufre. Pionnier encore, il l'a été lorsqu'il a créé en 1949 un lieu, l'Institut français d'histoire sociale, pour sauver de la disparition des archives entières de militants et d'organisations. Pionnier toujours, il l'a été lorsqu'il s'est lancé dans une folle entreprise, celle du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, désormais consacré sous le nom du Métron. Pionnier, enfin, il l'a été lorsqu'en 1960, il a fondé une revue, le Mouvement Social. On ne compte plus les générations d'historiens qui ont fait leurs premières armes dans les colonnes de cette revue. Chacune des entreprises de Jean Métron a reposé sur une même idée force, préserver la mémoire ouvrière. Michel Perrault.
L'importance de Métron, c'est que dans une mémoire qui est généralement celle des gens connus, celle des témoins privilégiés, ceux qui laissent leurs autobiographies, leurs écrits, leurs objets, la mémoire des tenants du pouvoir, c'est justement d'apporter une autre mémoire, celle des inconnus de l'histoire, celle de ces innombrables militants, notamment du monde ouvrier, qui ont construit l'identité ouvrière au XIXe et au XXe siècle. Et c'est là que se situe la très grande entreprise de Métron, qui est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. C'est une entreprise, quand Métron l'a commencé, il y a fort longtemps, qui laissait extrêmement sceptique. Personne ne pensait qu'il pouvait arriver à le faire, à mener ça à bien, d'autant plus que il voulait commencer, et il a commencé, dans la France des années 1830, c'est-à-dire un moment où il faut chercher dans les archives départementales, du pouvoir, de la police, les traces ténues des meneurs de grève, des responsables d'associations ouvrières, des mutuelles, des résistances, etc. Et puis, finalement, il l'a mené jusqu'à nos jours, puisque c'est en train de se continuer, et qu'on va avoir plus de 40 volumes qui nous donnent ces militants ouvriers. Donc, il y a, grâce à Métron, la construction d'un véritable lieu de mémoire, et de mémoire ouvrière et populaire. Ouvrière et populaire, très très important, parce que comme vous le savez, Métron ne voulait absolument pas que ce soit une mémoire partisane. Au contraire, il voulait que ce soit les gens qui, même à un moment donné de leur vie, même si ça n'a pas duré, même si c'est un moment dans une grève, ou bien quelques années. Les critères, évidemment, sont devenus plus rigoureux au cours du temps. On prend un gréviste de 1848 ou de 1865. Pour le XXe siècle, on prendra des gens qui s'inscrivent dans une durée plus longue, notamment dans le syndicalisme davantage. Mais il ne voulait en tout cas pas que ce soit annexé à aucun parti ou à aucun syndicat. C'était vraiment les gens qui avaient fait la classe ouvrière dans son identité de mouvement au sens très large du terme. Alors ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Et cette mémoire-là, elle est la mémoire de la France aussi. La France n'est pas seulement l'œuvre du monde rural ou du monde bourgeois ou du monde intellectuel. C'est aussi ce monde-là fondamental.
Toute la vie de Jean Métron va donc s'organiser autour de cette folle idée, raconter l'existence de tous les militants du mouvement ouvrier. Pour avoir un aperçu de la démesure de l'entreprise, Claude Pentier, qui a succédé à Jean Métron pour l'élaboration du dictionnaire, nous donne quelques chiffres.
Lorsque l'œuvre sera totalement achevée, cela représentera environ combien de notices biographiques ?
110 000 notices biographiques.
Combien de collaborateurs ?
260 collaborateurs.
Combien de volumes ?
43 volumes.
Combien de pages ?
Environ 20 000 pages.
Et combien d'années de travail ?
Un peu moins de 40 années, 37 ans à peu près.
C'est incontestablement la plus impressionnante entreprise de l'école historique française, mais aussi de l'édition française.
Oui, oui, puisqu'on ne pourra lui comparer que les grandes encyclopédies, type Encyclopédia Universalis, même dans les dictionnaires spécialisés, il y en a qui sont un petit peu moins importants que le Métron, mais aucun n'atteint ce volume.
Je pense qu'il a vu les difficultés qu'il y avait à recueillir des renseignements biographiques sur les militants. Il l'avait vu par son travail. Il a pensé qu'il fallait ressusciter la mémoire de ces obscurs. Et alors, c'était un énorme travail. Il a eu au départ relativement peu d'aide. Vous savez, les travaux collectifs, ça ne marche que s'il y a quelqu'un qui s'en occupe activement et qui en prend toute la responsabilité.
Du travail obscur, farouche, debout à la face du ciel.
Colette Chambellan.
C'était très compliqué comme décision. Il y avait des décisions à prendre sur les critères des militants à retenir et aussi sur la façon dont on le ferait. Est-ce qu'on le ferait de A à Z, toute période confondue, et Métron a très vite pensé que c'était tout à fait illusoire, qu'il fallait le publier par tranche chronologique.
Du travail obscur, farouche, debout à la face du ciel.
Le critère de départ était de retenir tous ceux qui avaient pu avoir une influence dans la naissance du mouvement ouvrier, dans la mise en place de ces organisations, dans l'évolution des idées du mouvement ouvrier.
Est-ce que vous avez vu parfois Jean Métron découragé, lassé, prêt d'abandonner ?
Oui, parce que je pense que quand on fait des tâches comme ça et qu'on a peu d'aide, on est souvent découragé. Il n'avait pas tendance à être découragé, il pouvait être désespéré, mais pas découragé, parce que je pense qu'il avait trop d'énergie pour ça.
Il a failli abandonner plus d'une fois ?
Failli abandonner, je ne sais pas. Marcel Métron, qui l'a toujours aidé dans cette tâche, vous le direz mieux que moi, mais il n'a jamais abandonné. Et ses dernières préoccupations, qui nous rendaient tous très, très tristes, c'était qu'il avait très peur de mourir avant que le dictionnaire soit terminé, ce qui a été malheureusement le cas, et qu'il avait pris toutes les assurances pour que ça puisse continuer. Puisqu'il demandait toujours à son médecin, est-ce que je vivrai jusqu'en 1992 pour pouvoir voir la fin du dictionnaire ?
La révolution sociale, c'est la révolution sociale par le travail.
Métron Jean, né le 17 décembre 1910 à Sardy-les-Épiries dans la Nièvre. Mort le 16 novembre 1987 à Créteil, Val-de-Marne. Marié le 9 avril 1936, père de trois enfants, Françoise 1937, Michel 1939, Jean-Louis 1942. Instituteur, puis professeur de cours complémentaires jusqu'en 1955, docteur ès lettres en 1950, professeur de l'enseignement secondaire 1955-1958, détaché au CNRS 1958-1963, maître assistant à Paris-Sorbonne, octobre 1963-octobre 1976, militant, historien du mouvement ouvrier. Fils d'instituteur, Jean Métron fut élève dans l'enseignement primaire à Pouilly-sur-Loire. Reçu premier du canton au CEP, il entra au lycée de Nevers en 1922 et y demeura jusqu'en 1929. Élève particulièrement paisible, il souffrit beaucoup de l'internat et du régime de prison qui lui fut imposé. Il ne sortait pratiquement pas au cours des trimestres et ne participait pas aux sorties sportives du jeudi qui avaient pourtant lieu sous la direction du professeur de gymnastique. Le résultat en fut la haine de Jean contre un certain type de régime d'internat, haine qui ne s'atténua pas avec les ans.
Alors, puisqu'il s'agit de notices biographiques, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur la biographie de Métron lui-même, partir notamment de ses origines. Il y a là deux figures centrales, c'est celle du grand-père Simon et du père Marius. Vous pouvez nous parler un petit peu du grand-père Simon ?
Oui, le grand-père Simon, Jean Métron attachait une grande importance à cet ancêtre qui était militaire à l'époque de la Commune de Paris, qui avait refusé de combattre contre la Commune de Paris, qui était donc parti en Suisse, et dont Jean Metron gardait précieusement les correspondances de l'époque, aimait commenter ses correspondances. Et ce grand-père était devenu cordonnier à la Charité, lisait la presse ouvrière, ouvrière, libertaire, mais aussi d'autres tendances. Et la lisait et la commentait avec ses compagnons d'atelier. Il était artisan, mais il avait un certain nombre de compagnons qui travaillaient avec lui, et il aimait cette lecture commentée de la presse.
Alors parmi ces journaux, il y avait notamment le Père Pénard, qui était un brûlot anarchiste.
Oui, alors le Père Pénard était justement un journal qui aimait un petit peu, qui aimait choquer, qui aimait bousculer en tout cas les idées, bousculer les formules. Et donc tout ça a marqué le père de Jean Metron lui-même et par ricochet Jean Metron.
Son père, qui était instituteur, et sa mère aussi, étaient des syndicalistes de l'enseignement, avaient une tradition anarchiste et après communiste. Son père lisait l'Humanité socialiste, a continué à lire l'Humanité communiste. C'était aussi la tradition anarchiste, révolutionnaire, mais aussi laïque et républicaine.
Ils sont bidards, les Esquimaux. Ah oui, nom de Dieu, ils sont bougrement bidards, les Esquimaux. Imaginez-vous qu'ils ne possèdent ni Sergo, ni Pandore, ni Pestaille d'aucune sorte. Pas même des mouchards de la secrète. Ils n'ont ni jugeur, ni avocat bêcheur, ni chicanou, ni requin de terre, ni avoué, et encore moins des prisons et des guillotines. Il s'ensuit que dans ce patelin époilant, les gardes chiourmes et les bourreaux sont inconnus. Et l'on ne s'y bouffe pas le nez à tire-larigot, comme pourraient le supposer les pantouflards de France qui ont la venette dès qu'ils se sentent plus protégés par le tricorne du gendarme. Bien au contraire. On vivote en harmonie avec les Esquimaux, et on y est aussi heureux que le permet le climat glacial. C'est même justement parce qu'il n'y a dans ce patelin ni gouvernant, ni jugeur, ni accapareur qu'on peut y vivre et endurer froidure. S'il y avait tous les anicroches, la rigueur du climat et les émiellements de l'autorité, l'existence y serait impossible. Père Pénard, 19-31 mars 1899.
Ah, le Père Pénard, c'était un journal curieux qui était fait par Émile Pouget, qui a été un des fondateurs de la CGT. Moi, j'ai lu le Père Pénard parce que pour mes un an, en 1931, l'année de la mort du Père Pénard, le Père Pénard m'avait offert une collection du Père Pénard. Et on a les mêmes traditions enfantines que Jean Metron.
C'était écrit dans une langue très verte.
C'était écrit dans une langue très verte d'argot. Émile Pouget a été aussi un des fondateurs de la CGT. Ça s'appelait le Père Pénard, réflexe d'un IAF qui est le cordonnier. Et vous êtes sous une affiche qui s'appelle Père Pénard au Populo. Il y avait aussi de très beaux dessins. Maximilien Luce dessinait pour le Père Pénard. Vous savez que tout le milieu des peintres impressionnistes ont été mêlés avec le mouvement anarchiste.
Le père Marius, qui lit l'Humanité, c'est aussi quelqu'un qui réveille parfois son fils au son de la ravachole. C'est quelque chose d'assez étonnant, ça, non?
Oui, je pense que c'est une certaine tradition d'une certaine génération.
Malgré le droit, contre toute injustice, ils ont dressé le sinistre échafaud. Elle est debout, la sanglante machine, et l'on attend que la main des bourreaux.
Le père aimait chanter bien qu'il ne soit pas anarchiste, il connaissait les chansons anarchistes, il connaissait la chanson de Ravachol, et il aimait en effet lui chanter ça. Donc il est resté à Jean Metron des souvenirs et le goût, en tout cas, de garder la trace de ces chansons qui pourraient être éphémères. C'est quelque chose qui plaisait, enfin qui faisait vraiment vibrer Jean Metron d'avoir l'occasion, comme ça une fois de temps en temps, de pouvoir entendre et chanter lui-même un certain nombre de ses chansons.
Nous avons l'espérance, oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger.
On insiste souvent insuffisamment sur ce problème du chant. Si l'on songe par exemple ce qu'un homme comme Montéus a porté sur la scène de revendication populaire, on demeure très étonné. Et je rappellerai ici une parole d'une femme, Flora Tristan, qui a parlé de l'effet extraordinaire et qui tient du magnétisme exercée par le chant collectif sur les masses. Et voyez-vous, je pense que beaucoup, et dans le peuple et hors du peuple, savent ce que ces chants apportent, reflètent, traduisent, augmentent, amplifient de sentiments divers et qui ont été utilisés en ce qui concerne le chant à propos du peuple.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le...
Malgré tout, Jean Métron tient à préciser qu'à aucun moment il n'est anarchiste, mais plutôt contestataire.
Oui, il n'était pas anarchiste, il disait toujours qu'il y avait les anarchistes au mauvais sens du terme. Il était révolté, c'était un des bons élèves révoltés. Moi, je le compare beaucoup à Pierre Monnat, à qui il ressemblait un petit peu physiquement, parce qu'il refusait un certain nombre de contraintes tout en étant des hommes d'ordre et de discipline. Mais il ne refusait pas les contraintes qu'on leur imposait. Métron, comme Monnat, n'avait pas supporté d'être interne dans un lycée. Il n'avait pas supporté mal, par exemple, quand ils ont été pions. Il avait été pion maître d'internat à Chaptal avec Max Lejeune et Jean-Louis Barrault, Métron, et il supportait mal ces vides d'internat, de caserne. C'était des... À ce sens-là, ils étaient peut-être anarchistes, mais c'était anarchiste au sens de révolté.
Oui, il conservera en lui une révolte profonde vis-à-vis de ce qu'il appelait ses bagnes d'enfants.
Absolument. Il n'a jamais voulu que ses enfants fussent internes.
Très jeune, dès l'âge de 21 ans, en 1930, Jean Métron adhère au Parti communiste. C'est une adhésion qui correspond à quoi chez lui ?
Oh, je pense qu'il l'a expliqué. Je pense qu'à l'époque, c'était le... Enfin, il était jeune, il avait 20 ans. C'était le seul parti qui lui paraissait garant d'un idéal révolutionnaire et du salut de la classe ouvrière.
Et pour autant, il va passer du Parti communiste au milieu trotskiste pour revenir au Parti communiste. Il y a comme ça un peu des va-et-vient de sa part.
Oui, je pense qu'il est un des rares à avoir adhéré deux fois au PC. Mais parce que je pense que très vite, il a senti ce qui n'allait pas, un certain mode de fonctionnement sclérosé, bureaucratique. Très vite, il s'est rendu compte qu'il se passait en urs des choses qu'on ne leur disait pas, qu'on travestissait. Et je pense qu'il a, avec son esprit critique... vu très tôt un certain nombre de choses, mais c'était très difficile à côté de ça de ne pas pouvoir agir. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a essayé un certain nombre de groupes.
Justement, à propos de l'URSS, il s'y rend en mars 1933. Oui. Il dit avoir pris conscience d'un certain nombre de problèmes, d'avoir assisté notamment à des scènes de famine. Mais pour autant, lorsqu'il revient en France, il se refuse à critiquer le système, le régime.
Vous savez, il n'a pas été le seul à l'époque. Je pense que d'autres ont eu d'autres attitudes. Lui pensait que c'était, surtout en 1933, à la période du fascisme montant, qu'on ne pouvait pas critiquer un État qui était peut-être encore avec des possibilités révolutionnaires, prolétariennes, et qui pouvait encore sauver l'Europe de la montée du fascisme. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire à sa place, mais je pense que c'est pour ça... qui n'a pas dit, d'ailleurs il n'avait pas vu grand-chose comme petit voyageur de base, il n'a jamais été dans les instances dirigeantes, donc je pense que sa responsabilité, là il se l'est reproché après de ne pas l'avoir dit très tôt, il le dit très bien dans la préface, qui est certainement un des textes les plus émouvants qu'il ait écrit, d'Une petite pierre, mais je pense qu'il croyait qu'il fallait aussi lutter contre le fascisme en Italie et en Allemagne.
Ce fut notre drame. Et qui demeure le mien, celui de tous les communistes. Il y eut certes des menteurs délibérés qui ne voulurent retenir de la réalité russe que ce qui confortait leur position personnelle. Mais moi, mais nous, les sincères, si déjà le socialisme soviétique connaissait son inquisition et ses bûchers, encore que nous ne les découvrions alors qu'imparfaitement, il nous paraissait impensable de faire chorus avec ses ennemis déclarés. Et c'eût été le cas, estimions-nous, si nous avions dénoncé publiquement les crimes staliniens. Aussi, Et je mentis comme d'autres. Mentis, oui, par omission, jusqu'au jour où, après avoir vécu l'Allemagne nazie et l'Espagne franquiste, puis les temps tragiques de l'immoral pacte germano-soviétique, je me suis tu, enfin. J'écris ces lignes comme une confession. Ceux de notre génération ont cru aux utopies de leur père, au grand soir et à la grève générale révolutionnaire qui devait nous faire connaître, après quelques heures, des lendemains qui chantent. Nous savons aujourd'hui que la conquête du socialisme sera longue et résultera d'efforts quotidiens, obscurs mais féconds. Devrions-nous renoncer ? Rejetons pour commencer tous les catéchismes, fussent-ils marxistes ou léninistes, et coûte que coûte, maintenant et en toute société, un premier droit, celui de dire non.
Il avait été beaucoup marqué par ce voyage à l'Union soviétique, comme il avait aussi été très marqué par son séjour en Allemagne, un séjour de 6 mois qu'il avait fait grâce à une bourse. C'est vraiment là quelque chose qui l'a profondément touché.
Il voyage également en Espagne. Et là, il a une action très militante. Enfin, il s'engage un peu dans les combats, en quelque sorte.
Oui, il apporte un soutien matériel avant le début de la guerre d'Espagne. Il apporte un soutien matériel à des militants et il restera toujours très, très sensible aux événements d'Espagne. Il gardera toujours des relations épistolaires et d'amitié avec des gens qui sont actifs en Espagne.
Dans les années 30, en 1936, donc Jean Métron est instituteur. Ce métier d'instituteur, ça représentait quoi pour lui ?
Ah, c'était une passion totale pour lui et ses élèves ont gardé un souvenir. Il a enseigné dans l'enseignement primaire très très longtemps. Il a été le seul docteur ès lettres à être encore professeur de cours complémentaires.
Comment expliquer justement qu'il soit resté instituteur et qu'il n'ait pas fait une carrière de professeur ?
Mais on ne fait pas de carrière de professeur quand on n'est pas agrégé. Et il n'avait aucun mépris pour ce travail. Sa femme était aussi professeure de cours complémentaires. Et je pense qu'il faisait partie de ces générations d'enseignants qui ont vraiment eu une action en profondeur sur leurs élèves et qui étaient passionnés par la pédagogie, par leur métier, et qui enseignaient dans des milieux populaires. Et pour eux, c'était aussi le moyen de faire sortir un certain nombre d'éléments d'élite, parce qu'ils avaient un sens très sûr de leur métier et ils n'étaient pas ennemis d'une sélection.
Lui dit qu'il manquait tout de même de confiance pour entreprendre une carrière un peu plus prestigieuse.
Mais je pense que c'est par modestie un peu, puis parce qu'on lui avait instauré cette méfiance.
C'est l'enseignant ou l'ex-enseignant qui va parler. Je ne conçois pas la culture, qu'elle soit populaire ou autre, sans effort. Ce qui compte pour moi, c'est le travail. Je suis, excusez-moi et pour vos auditeurs, un vieux réactionnaire en ce domaine. La raison en est que je souscrirais fort bien à ce que disait Alain. Je n'ai jamais été particulièrement enthousiasmé par l'arithmétique en riant, le latin en riant. Quelle fumisterie ! Passez-moi l'expression. Ce qui compte, c'est la classe nue, comme le disait Alain, avec des enfants qui font effort. Ensuite qu'on les libère, qu'ils aillent jouer, se battre, chahuter autant qu'ils voudront, la classe est un lieu où l'on travaille.
Août 1939, c'est le coup de tonnerre du pacte germano-soviétique, l'alliance entre Hitler et Staline. Pour beaucoup de militants communistes, c'est le traumatisme. Jean Métron est de cela.
Il en a parlé beaucoup après, il en a parlé beaucoup avec mon père, pour qui ça avait été le même traumatisme. Mis à part que mon père croyait déjà, il ne croyait plus depuis très longtemps aux possibilités révolutionnaires de l'État soviétique. Mais je pense que pour eux, enfin surtout pour Métron, qui croyait encore à des possibilités que l'URSS lutte contre le fascisme, le fait que les deux s'allient, il ne pouvait pas y avoir de désespoir plus profond.
Et cela va l'amener à se retirer de l'action militante.
Complètement.
Mais pour autant, il va se replier sur le travail intellectuel.
C'est une autre façon aussi de militer et de retrouver la vérité. Puis c'est une façon aussi de ne pas devenir fou. Enfin, fou intellectuellement, de ne pas perdre tout espoir. Puis c'est peut-être aussi de se pencher sur le passé pour voir si tout était pourri dès le départ ou pas, ou s'il y avait d'autres possibilités. La démarche de Metron n'est pas unique. Alfred Rosmer, qui a entrepris en 1936 une histoire du mouvement ouvrier pendant la guerre de 14, c'était aussi un moyen de repli et de comprendre ce qui s'était passé dans sa propre vie.
Alors, s'il se retire de l'action militante classique, pour autant, il va quand même, parce que c'est en lui, quoi, c'est un militant dans l'âme, il va continuer de militer à sa façon, et notamment à faire de l'histoire, et avec le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Alors je voudrais qu'on revienne sur ce dictionnaire et en faire une présentation un peu succincte. Ce dictionnaire est découpé en quatre périodes. Vous pouvez un peu nous présenter ces quatre périodes?
Oui, ça a été vraiment la bonne idée de Jean Metron d'avoir coupé le dictionnaire en quatre périodes. Il aurait voulu mener un dictionnaire biographique de la Révolution française à 1939 en prenant les mêmes types de collaborateurs. Il n'aurait pas réussi parce que dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il s'appuie sur des sources qui étaient beaucoup trop diversifiées, des collaborateurs qui étaient moins spécialisés selon les périodes, et il n'aurait pas pu jouer du mûrissement, de l'évolution de l'historiographie. Or, il a eu la chance d'accompagner cette historiographie, les travaux qui se faisaient période par période. Donc ces quatre périodes sont divisées ainsi. La première va de la Révolution française, c'est-à-dire vraiment les origines, la préhistoire du mouvement ouvrier, jusqu'à la création de la Première Internationale, 1864.
Concernant cette première période, là il fait le dictionnaire un peu avec les moyens du bord, c'est-à-dire peu de choses, peu de moyens. Il le fait pratiquement seul, mais avec quelqu'un d'important, Jean Dautry.
Oui, la rencontre avec Jean Dautry a été importante, et puis une série d'autres collaborateurs, mais Jean Dautry a vraiment été la cheville ouvrière du volume. Jean Dautry avait une grande connaissance du saint-simonisme et de toute une série d'autres courants importants pour cette période. Il l'a épaulé par un travail considérable. Et Jean Metron tenait toujours à lui rendre hommage, tenait toujours à faire apparaître, quand on sortait des publicités sur le dictionnaire, tenait toujours à faire apparaître le nom de Jean Dautry en plus gros que les autres, parce qu'il savait vraiment que sans la réussite de la première période et sans les connaissances et sans l'apport de travail de Jean Dautry, la suite n'aurait pas pu exister.
À eux deux, pratiquement, ils vont rédiger la plus grande partie des 12 000 biographies que comporte cette première partie.
Oui, la plus grande partie. Ceci dit, il y avait des correspondants départementaux, mais les correspondants départementaux n'étaient pas encore habitués à la forme dictionnaire, donc ne rédigeaient pas encore comme ils l'ont fait beaucoup plus facilement dans les périodes suivantes. Et puis, il y avait quand même une quinzaine d'autres rédacteurs, mais sans le travail de réécriture, de mûrissement, de coupe, etc., qui était celui de Dautry et de Jean Metron, les trois volumes n'auraient pas pu voir le jour.
Tous les deux n'ont pas été pris un peu de découragement pendant l'entreprise?
Je ne connais ça qu'indirectement, mais je le sais par la correspondance qu'envoyait Dautry à Jean Metron, que Dautry disait qu'il n'avait jamais autant travaillé pour un ouvrage et qu'il était impressionné, parfois un peu découragé par la masse. Ceci dit, c'est un excellent apprentissage, puisqu'ensuite Jean Metron, lui, ne s'est pas découragé pour les quelques 40 volumes qui ont suivi.
Mon cher Metron, grâce au diable, cela progresse quand même. Mais de ma vie, je n'ai fait un travail aussi empoisonnant. Environ 50% de tes fiches de dernière heure sont ou des doubles de choses que j'ai déjà examinées et classées, ou des versions nouvelles qui diffèrent des précédentes par epsilon. Il faut des nerfs que je n'ai plus pour supporter cet engluement. Je perds mon temps, au lieu de l'employer de manière profitable à boucher les vrais trous. J'enrage quand je pense au travail que tout cela m'aura coûté pour ne me rapporter qu'insatisfaction, semi-insatisfaction tout au plus. Jean Dautry à Jean Metron, le 15 mai 1962.
La suite, c'est la deuxième période qui couvre, elle, 1864-1871.
Oui, donc une période très courte. Et l'idée de Jean Metron, c'était de saisir une génération militante, la génération de la Première Internationale et de la Commune de Paris. Et avec, là encore, vraiment une très bonne idée, puisqu'il y avait il y a des sources spécifiques. Les communards ont été condamnés, et donc il y a des sources d'archives particulières. Et bon, il y a vraiment là des gens qui apparaissent dans cette période, qui disparaissent ensuite, malheureusement beaucoup par la mort, d'autres par la déportation. On ne sait pas bien ensuite quelle est leur forme de militantisme. Et donc il était tout à fait justifié de les saisir dans le feu de l'action et de le faire en travaillant avec des spécialistes de la période, de cette période si passionnante, enfin de cette période la plus haute en événements pour l'histoire du mouvement ouvrier.
Troisième période, elle couvre cette fois-ci 1871-1914. Et alors là commence un véritable travail collectif. C'est à partir de là qu'on peut dire vraiment ça devient une œuvre collective.
Oui, le réseau des correspondants départementaux est bien plus est vraiment en place. Ces correspondants départementaux, dont une partie avait déjà travaillé auparavant, mais il apparaît maintenant des générations. Il apparaissait des générations d'étudiants. L'histoire ouvrière commençait à être enseignée à l'université, et il y avait des spécialistes de telle ou telle famille politique, des spécialistes des guédistes, des spécialistes des vaillantistes, etc. Donc Jean Metron pouvait diversifier un tout petit peu ses apports.
Enfin, quatrième période, elle couvre les années 1914-1939. Vous êtes celui qui a pris la succession de Jean Metron pour parachever cette œuvre. Est-il exact que Jean Metron a hésité à entreprendre cette quatrième période ?
Il est sûr qu'il touchait là une période qui était beaucoup plus difficile pour lui et beaucoup plus qui le touchait directement, parce que c'était sa période de militantisme, une période où le mouvement ouvrier connaissait une extension géographique. Aucun canton de France n'ignorait le mouvement ouvrier. Il y avait toujours un candidat communiste aux élections cantonales. Il y avait toujours un syndicat de bûcherons ou de cimentiers, même dans le département le plus rural et le moins touché par les traditions socialistes au cours du XIXe siècle. Donc il fallait rendre compte de cette extension, il fallait rendre compte du fait que le syndicalisme touchait maintenant des couches salariées beaucoup plus diversifiées. Et donc en appliquant les mêmes critères de sélection des militants, c'est-à-dire en retenant les militants qui sont des militants responsables, des militants qui ont influé sur les implantations locales, sur les traditions politiques de leur métier, de leur région, de leur syndicat, on arrivait à couvrir un personnel politique beaucoup plus large. Je crois que si Jean Metron s'est interrogé sur l'ampleur que prenait cette période, il a été aussi tout à fait enthousiaste par ce couronnement du dictionnaire et par la possibilité de pouvoir faire revivre les courants les plus diversifiés qu'il avait connus, lui, pendant cet entre-deux-guerres. Les militants anarchistes, militants trotskistes, militants socialistes, militants communistes, syndicalistes, etc.
En revanche, il s'est vraiment refusé à aller au-delà de 1939.
Dans tous les cas, il n'avait pas guère la possibilité. Il avait la grande qualité de Jean Metron, c'est une grande lucidité. Il avait vraiment les pieds sur terre. Et donc, il n'envisageait pas des choses qu'il n'était pas capable d'assumer. Le dictionnaire, il l'a publié pendant longtemps à raison d'un volume par an. Quand on a entrepris la période suivante, la période qui va de 1914 à 1939, on en a publié deux ou trois volumes par an. Il savait que dans tous les cas, tout ça avait des limites. Donc, lui, n'importe comment, disait, on ne peut pas envisager au-delà de 1939. Et puis, d'une certaine façon, son mouvement ouvrier à lui, tel qu'il l'avait perçu, s'arrêtait aussi en 1939. Et il n'était pas vraiment passionné par la période de la libération, mais il envisageait tout à fait, il comprenait que d'autres se passionnent pour cette période. Il savait que le mouvement ouvrier ne s'arrêtait pas en 1939, mais lui, le mouvement ouvrier qu'il avait vécu, avec cette rupture que représentait le pacte, avait bien cette limite chronologique.
Cotias, Josette, épouse du Mex. Née le 30 août 1919 à Paris, dans le 12e arrondissement. Employée, journaliste depuis 1946 et bibliothécaire. Robert. Née le 9 juin de l'Union des jeunes filles de France, à Saint-Quantin, membre suppléante du comité central, père de 6 enfants, militant socialiste, pacifiste et libertaire. Robert Jospin naquit dans une famille originaire du Nord, protestante, fort pratiquante, mariée. Son père exerça longtemps les fonctions évangélistes.
militant syndical au lycée Bâtiment et des secrétaire général entre 1935 et 1939 du cartel du bâtiment de Lyon et région. Puis, seul rescapé de son escouade, il avait été enterré vivant et porté disparu. Tombé dans les mains des Allemands, il passait des
Pour l'établissement de ce dictionnaire, il a fallu éplucher une masse considérable de documents.
Oui, c'est ces qualités de méthode qui ont permis de ne pas se noyer sous la masse documentaire. On ne peut pas dire que tout a été dépouillé pour le dictionnaire, c'est tout à fait exclu. Lui a dépouillé de façon systématique les archives de la préfecture de police, les archives nationales. Il a vu à peu près la totalité des dossiers qui étaient ouverts et les journaux qui étaient dans ces centres d'intérêt. Et puis moi je voyais au contraire les journaux provinciaux, la presse provinciale, mais pour beaucoup de départements on comptait sur l'apport des correspondants départementaux, on comptait aussi sur les apports documentaires divers qui nous sont signalés par les uns et par les autres. C'est le côté riche du dictionnaire, c'est que la documentation, d'une certaine façon, venait à lui par la réputation du dictionnaire.
Pour éplucher les archives policières, cela lui donne l'occasion de rencontrer quelqu'un d'assez étonnant, un inspecteur de police, Monsieur Claude de Batal.
Ah oui, le commissaire Batal.
Le commissaire Batal, et non inspecteur.
Oui, en 1956, il avait demandé une autorisation spéciale pour consulter des fonds qui étaient aux archives de la préfecture de police, qui lui ont été accordés. Et on l'a mis en rapport avec un commissaire qui avait la gestion des dossiers biographiques. Et comme toujours dans ce genre d'autorisation, tout dépend de la qualité de l'interlocuteur, de la bonne volonté de l'interlocuteur. Et souvent quand on traite de ce genre de choses, il est certain qu'on donne du travail à l'interlocuteur, son intérêt n'est pas évident. Et alors là, c'est une situation inverse, c'est qu'il est tombé sur quelqu'un qui était très intéressé par l'histoire ouvrière, très très touché par le projet de Jean Métron, et qui a eu, et ça les gens l'avaient facilement, une grande confiance.
3 ans plus tard, dame, ce garçon vigoureux, solide, sportif, était compagnon.
Après la révolution de
il
février,
participait aux courses
il devint vice-président mais du comité
à 20
électoral
ans, un
de la
grave
démocratie
accident de vélo compromis sa santé.
Né le 24 juin de novembre 1906
à Lyon,
aux élections à la constituante d'avril 1848.
Marié, filiate, père d'un enfant, Roland, Nicolas, ouvreur, plombier, zingueur. Né à saint militant syndicaliste du bâtiment le 15 septembre, secrétaire général entre 1935 et 1939, cartel du bâtiment en société
régionale. Il signait une protestation adressée à l'Assemblée nationale contre le projet de fermeture des clubs.
Alors à propos des auteurs du dictionnaire, Jean Métron les qualifiait souvent d'historiens militants.
Oui, et il aimait qu'il y ait chez ses correspondants départementaux une fibre militante, un intérêt, d'abord une perception plus rapide du milieu départemental. Quand on a été militant, on sait que tel vieux militant vit toujours, que tel fils de militant a toujours une activité. Donc, mais il aimait qu'il y ait de la passion, en fait, derrière l'activité de rédaction, même si la rédaction devait être pour autant tout à fait distante, froide, il aimait que la perception en soit très vive. Et il est vrai que ses premiers correspondants ont été pour partie des syndicalistes de l'enseignement.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est que tout ça, c'était un travail bénévole et qui tenait en fait en grande partie à la force de conviction de Jean Métron.
Oui, oui, c'était surtout sa capacité de les convaincre, de les entraîner à ce travail et de donner confiance aux gens. Parce qu'il fallait que les gens sachent que le produit de leur travail sera utilisé. Dans une entreprise aussi importante que ça, il inspirait vraiment la confiance. Il savait relancer les gens au bon moment, de la bonne façon. Il savait bien choisir ses correspondants départementaux, entretenir avec eux des relations qui étaient d'une certaine richesse.
personnalité qui a marqué l'histoire syndicale du bâtiment dans la région lyonnaise. Hildebert Chaintreuil est né dans une famille d'adolescents du seul son père, maître mineur, avait travaillé dans des mines en Algérie et était devenu directeur des mines de plomb né à Saint-Mandier de la Plagne en Savoie. Mais en 1916, au moment où naquit son premier marié, perd une fille, électricien, l'enfant avait 6 ans, militant socialiste parmi Fomois et Renaud de l'autre localité dernière de la Savoie.
Debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant grâce aux tueries d'artifice du statuaire, l'imbécile illusion de la joie, de la danse et de la jubilation.
Alors, ce travail, l'établissement de ces notices biographiques, c'est l'occasion pour Jean Métron et pour tous ceux qui participent au dictionnaire, c'est l'occasion de rencontres souvent extraordinaires avec des militants parfois oubliés, avec des militants qui s'étaient plus ou moins peut-être retirés dans leur campagne.
Ah, c'est ce qu'aimait Jean Métron, c'est cette redécouverte. Redécouverte de gens qu'il avait toujours un tout petit peu, pour la période 14-39, dont il avait toujours entendu parler. C'est des noms qui lui disaient quelque chose, mais c'était derrière le nom. Il connaissait pas l'itinéraire de façon complète, il ne savait pas ce qu'étaient devenus ses militants, et il les retrouvait en effet avec un plaisir évident. Il y avait souvent la satisfaction de voir des militants redécouvrir eux-mêmes l'importance de leur itinéraire, éprouver le besoin de se pencher à partir de là sur leur passé.
Jean Métron faisait du militant un type particulier du genre humain. Pour lui, c'était quelqu'un d'exceptionnel, enfin, qui avait une place un peu à part.
Oui, pour lui, le militant, c'est l'acteur de l'histoire. Et il pensait que finalement, dans le mouvement ouvrier, il n'y a de richesse que d'hommes ou de femmes, et que qu'y a-t-il de plus important que celui qui sait dire non, qui sait refuser la société telle qu'il est, et qui essaye tant bien que mal de la transformer, tant bien que mal, parce que il pouvait très bien comprendre et que certains aient eu des itinéraires qu'ils ne partageaient pas, ou des analyses qu'ils ne partageaient pas, mais il respectait toujours en tout cas la volonté de changer le cours des choses.
Il y a un reproche qu'on a parfois adressé au dictionnaire, c'est le nombre de femmes qui figurent dans ce dictionnaire. Elles sont peu nombreuses.
Oui, c'est un reflet de ce qu'est le mouvement ouvrier à ces différentes périodes. Les critères sont même légèrement élargis d'ailleurs pour les femmes, puisque nous retenons des femmes qui n'ont pas eu de responsabilité, mais qui ont eu une influence durable sur un secteur, par exemple des militantes pacifistes liées au mouvement ouvrier, qui aura eu une influence pendant plusieurs années dans une région, figure dans le dictionnaire.
Chaintreuil, Hildebert. Né le 24 septembre 1906 à Lyon, dans le 3e arrondissement.
Après la révolution de février, il devint vice-président du comité électoral de la démocratie rémoise.
Militant syndicaliste du bâtiment.
Il s'est proposé comme candidat des
travailleurs général entre 1935 et 1949
pour le cartel du bâtiment de Lyon.
Puis de la 10e région du bâtiment.
Du comité central des corporations de Reims, fondé par Rissi, et il collabora à son journal à l'association Rémoise.
Alors, preuve de cette vitalité, le Métron a fait plusieurs petits.
Le Métron a été, au bon sens du terme, imité à l'étranger. Hein, il y a un certain nombre de dictionnaires étrangers. En France, il y a un dictionnaire du féminisme qui est en cours, et dont nous souhaitons qu'il puisse être édité, et qui est tout à fait conçu sur le modèle du Métron. Et puis il y a un certain nombre d'initiatives locales qui se réfèrent au Métron, les militants de telle commune, les militants de tel département, des fois avec des spécialisations. Des gens travaillent sur les militants chrétiens, par exemple, en Lorraine. D'autres travaillent sur les militants communistes dans le Finistère. Donc, et c'était bien l'idée de Jean Métron, c'était de semer pour qu'éventuellement d'autres récoltes, pour donner l'envie sur le plan local, sur le plan professionnel, à des gens de reprendre cette initiative, d'approfondir, d'aller plus loin et à partir de là de conserver une mémoire, d'aller plus loin dans l'interview des militants, dans la quête d'archives.
Oui, Jean Métron n'a jamais prétendu à l'exhaustivité, mais il tenait quand même à tracer un premier sillon.
Oui, s'il avait prétendu à l'exhaustivité, il aurait fait un dictionnaire en 5-6 volumes, reprenant les grands noms du mouvement ouvrier, et alors là, il aurait essayé d'aller au bout de la connaissance du moment sur Proudhon, sur Varlin, sur Jules Guesde, sur Vaillant, sur Yvetot, etc. Et il a fait peut-être un millier de biographies. Il a fait sans doute une œuvre tout à fait intéressante, mais une œuvre dont nous ne parlerions plus aujourd'hui. Or, sa volonté était vraiment de faire une œuvre vivante, une œuvre qui se pérennise. Et en ce sens-là, il a remarquablement réussi.
Indéniablement, ce dictionnaire a contribué au développement de l'histoire politico-culturelle française.
Ah, il a marqué, je crois, dans plusieurs domaines. Il a marqué dans le domaine de l'histoire ouvrière, puisque au lieu d'avoir une histoire ouvrière qui se fasse sous influence politique par courant, il a réussi à faire une histoire plurielle, reconnue par l'ensemble des courants du mouvement ouvrier français et reconnue par des gens qui n'appartiennent pas au mouvement ouvrier, reconnue par l'université, reconnue par la presse en général, même si tel ou tel peut émettre de ci de là une réserve, il a bien réussi là à créer quelque chose de tout à fait original et de tout à fait unique. Et il a réussi à relancer le goût pour l'histoire ouvrière dans une période où elle était un petit peu hésitante. Il a surtout relancé le goût pour la biographie. Or, sous l'influence de l'école des annales et sous bien d'autres influences, la biographie était un petit peu tenue en suspicion. Alors il l'a réintroduit par la biographie collective, par la biographie plurielle. Et maintenant on voit un renouveau de la biographie individuelle qui vient en quelque sorte se greffer sur ce succès, cette reconnaissance de la biographie collective. Mais là on est simplement d'ailleurs au début de l'exploitation du dictionnaire et de sa lecture comme œuvre de biographie collective et comme approche sociologique du militantisme.
On imagine bien sûr sa tristesse de n'avoir pas vu son œuvre totalement achevée.
Oui, il est sûr que son vœu le plus profond était de pouvoir vivre jusqu'à l'achèvement. À la fin, il me disait qu'il pensait que 2 années, 3 années est encore nécessaire, et il savait que c'était un délai en fait beaucoup trop juste, mais il est vrai qu'il vivait pour le dictionnaire, par le dictionnaire, et qu'il aurait aimé passer le cap des 80 ans pour pouvoir fêter dignement l'achèvement de cette œuvre dont pour lequel chaque volume était vraiment un plaisir, une satisfaction pour lui. Je le constatais à chaque fois que j'ai eu l'occasion, surtout pour les derniers volumes, il n'allait pas les chercher aux éditions ouvrières, je lui apportais ces volumes, et je voyais vraiment cette satisfaction de feuilleter, de voir les choses avancer. Il est certain que ce n'est pas simplement son regret, c'est notre regret à nous de ne pas pouvoir fêter le dictionnaire, fêter la fin du dictionnaire avec lui.
Il disait de ce dictionnaire, c'est mon autre jouvence.
Oui, il a dit plusieurs fois que c'est certainement cette réflexion autour du dictionnaire qui l'empêchait de désespérer. parce qu'en effet, l'évolution politique, il voulait garder la foi dans les idéaux de sa jeunesse. Et en même temps, il avait tout à fait conscience que quelque chose d'irrémédiable dans l'évolution du stalinisme, du mouvement communiste, dans les transformations du syndicalisme, etc., faisait qu'il ne pouvait plus vivre les idéaux de sa jeunesse de la même façon. Mais il souhaitait que là, le dictionnaire soit un instrument de réflexion, de consultation, quelque chose qui lie les gens qui veulent réfléchir. Et lui s'interrogeait vraiment à partir de ses biographies, et la réalisation du dictionnaire était quelque chose qui l'empêchait de désespérer du politique.
C'était un homme chaleureux, très humain. Il était à l'écoute des autres. Il est très facile d'établir le contact avec lui. Il y avait toujours possibilité de dialogue, et de dialogue sur tout, parce que il n'était jamais coupé de la réalité vivante. On parlait avec lui aussi bien de ses ancêtres vignerons, de son père, lui aussi conquis au mouvement ouvrier, de ses ancêtres, des bords de Loire qu'il aimait tellement, de la vie de ses enfants, de ses petits-enfants bientôt. Il y avait tout ce côté très très chaleureux et très direct. Et puis en même temps, il y avait une espèce de, j'allais dire, de presque de candeur. C'est-à-dire que c'est un homme qui est passé à travers les déceptions et les difficultés sans en ayant eu pas mal d'amertume. C'est un homme qui a été blessé aussi, et ça il faut peut-être aussi le rappeler, par le dédain qu'il a pu rencontrer. Il a trouvé que l'université était dure, de façon générale. Il n'a pas toujours aimé l'université, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si, au bout du compte, l'université a fini par le soutenir et le reconnaître, et si c'est quand même grâce à l'université qu'il a pu mener ça à bien. Mais avec combien de grincements de dents ? Et il faisait toujours la différence entre une institution qu'il critiquait pour son académisme, sa hauteur, et les gens qu'il pouvait rencontrer à travers cela. Alors ça, c'était formidable.
C'est à l'aube de ma jeunesse que je suis entré, peut-on dire, en socialisme. C'est en gros par le dictionnaire que j'ai poursuivi durant 30 ans mon engagement, m'y consacrant 365 jours par an et retrouvant chaque matin mes dossiers avec le même enthousiasme, y travaillant le jour, y rêvant parfois la nuit, toujours militant, toujours avec passion. Le lecteur sera étonné que, maître assistant, j'ai pu me consacrer aussi totalement au dictionnaire. C'est que l'université ne m'a pas accueilli avec des transports de joie lorsque M. Renouvin m'imposa en quelque sorte à la direction du Centre d'histoire du syndicalisme de Paris 1 Sorbonne, que j'avais charge de créer de toutes pièces. Et, pratiquement, je fus interdit de cours et d'avancement, de promotion. Passons. Si toute médaille a son revers, et l'on sous-entend négatif, elle peut aussi avoir un revers positif, et ce fut le cas. Dispensé pour l'essentiel de cours, je pus me consacrer au dictionnaire en même temps qu'au centre, aux étudiants et à leur mémoire de maîtrise. Merci donc à tous les ultras de l'université qui, me sanctionnant pour avoir fait profession de socialisme, m'interdirent certes une carrière universitaire normale, mais favorisèrent par là même l'élaboration des quelques 40 volumes du dictionnaire. Ils m'excuseront seulement de ne pas les citer pour autant au nombre des collaborateurs de l'entreprise.
Jean Métron, avant-propos de la quatrième partie du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français.
Il était une mémoire vivante, c'est-à-dire que quand on travaillait sur le mouvement ouvrier, il avait des souvenirs presque de mémoire orale, et il racontait des choses, il y avait tout cela. Donc un homme humainement remarquable, tout à fait remarquable, et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, beaucoup aimé, et qui m'a ouvert des tas de choses. Je pense que... enfermé peut-être dans une problématique plus qu'on appelait plus scientifique à l'époque, mais qui était peut-être plus pseudo-scientifique à la limite. Je pense que grâce à Métron, je me suis ouverte à une manière plus humaine et plus concrète de faire l'histoire. Le fameux vécu que 68 a tellement revendiqué, Métron le revendiquait avant 68. Et c'est pourquoi 68 s'est trouvé en plein accord avec Métron et Métron avec 68. Don't you know you better run, 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 run.
C'était Profil perdu, Jean Métron, avec les témoignages des historiens Michel Perrault, Claude Pentier et Colette Chambellan, et la voix de Jean Métron. Texte lu par Marcel Tassimo, Marie Pillet et Daniel Tarrard. Une émission d'Alain Astaud, mixage Hervé Levaux, collaboration technique Claire Levasseur, réalisation Jacques Taroni. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 septembre 1990.